pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Danielle Simonet, conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement de Paris et oratrice nationale de la France insoumise. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Danielle Simonet, de nombreux responsables politiques dénoncent la gestion de la crise du Covid par le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'interroge sur le rôle de ce conseil de défense qui prend les décisions liées au Covid, un conseil qui s'est réuni une quarantaine de fois depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut accepter une union nationale, comme le réclame Jean Castex, sur la question du Covid et remettre les critiques à plus tard, quand la crise sanitaire sera terminée ?
Vous savez, c'est justement parce qu'on est en situation de crise qu'on a besoin de plus de démocratie, parce qu'on a besoin de plus d'intelligence collective pour décider des bonnes mesures à prendre. Ce qui est hallucinant, c'est que souvenez-vous, lorsqu'on était, on approchait la sortie du premier confinement, Jean-Luc Mélenchon et le groupe des parlementaires France Insoumise disaient « Mais attention, on va avoir une deuxième vague, donc il faut une planification sanitaire du déconfinement. » Et à ce moment-là, tous les parlementaires, la République En Marche et le gouvernement, nous ont rigolé au nez. Et aucune des mesures n'a été prise. Ils n'ont pas cherché à instaurer la gratuité des masques, ils n'ont pas cherché à ne pas dépendre des laboratoires privés pour avoir une stratégie de test efficace, ils n'ont pas cherché à réquisitionner les hôtels pour avoir un dispositif d'isolement, ils n'ont pas non plus cherché à mobiliser la démocratie dans les entreprises. Bon, par ailleurs, ils avaient aussi supprimé Conseil hygiène et sécurité et conditions de travail, pour faire en sorte que les travailleurs puissent voir comment faire en sorte d'avoir une organisation du travail qui ne fasse pas circuler le virus. Enfin, ils n'ont pris aucune des mesures là-dessus, et ils ont même laissé, malgré leur discours sur l'hôpital public, ils ont laissé l'hôpital public dans une situation catastrophique. Hein, et ils continuent de supprimer des lits, et on est dans une situation de crise sanitaire et de crise hospitalière. Donc déjà, on peut quand même tirer le bilan, mais surtout tirer le bilan pour prendre tout de suite les mesures qui s'imposent. Je pense en tout que c'est parce qu'il y a eu la démocratie lycéenne et qu'ils ont décidé d'occuper leur lycée, de bloquer leur lycée, que du coup un autre protocole a été mis en place de demi-groupes dans les lycées pour essayer de lutter contre la circulation du virus. Donc franchement, on a besoin au contraire de plus de démocratie. Au lieu de ça, on a le président Macron qui fonctionne comme un monarque avec son conseil de défense, comme si des généraux de l'armée, que je respecte, hein, avaient une quelconque compétence en matière sanitaire, en matière épidémiologique, en matière médicale. C'est pas sérieux. C'est juste antidémocratique. Donc le Parlement, le gouvernement ne gouverne plus, n'est plus redevable devant le Parlement, et le Parlement ne peut plus délibérer des mesures qui sont prises ou qui devraient être prises.
Danielle Simonet, à Paris, vous dénoncez la fermeture des urgences de l'Hôtel Dieu. Que répondez-vous à Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, pour qui cette fermeture provisoire vise à renforcer les effectifs des hôpitaux voisins ?
Eh bien, franchement, le problème, c'est qu'il ferme les urgences pour dispatcher le personnel. Or, on a sur l'Hôtel Dieu un établissement qui aurait pu, au contraire, accueillir soit les patients Covid qui n'ont pas besoin de services de réanimation, donc les cas moins graves pour délester les autres hôpitaux, soit au contraire accueillir les patients non Covid pour essayer au maximum de lutter contre l'engorgement des autres hôpitaux, des autres urgences. Et forcément, le personnel hospitalier d'Hôtel Dieu craint beaucoup qu'à travers cette fermeture soi-disant ponctuelle, ne s'accède à la volonté de Martin Hirsch de fermer l'hôpital. Souvenez-vous, lors du confinement, ils avaient déjà essayé de fermer les urgences et ils avaient prétendu qu'il n'y avait pas de fluide à l'Hôtel Dieu, qu'il n'y avait pas d'oxygène, ce qui était un énorme mensonge. Les syndicats avaient montré que, au contraire, il y a tout le matériel, il y a les fluides, on peut faire de l'oxygénothérapie à l'Hôtel Dieu. Et on sait que sur cet hôpital, il y a un projet entre l'assistance publique Hôpitaux de Paris et la ville de Paris, qui par ailleurs n'a jamais été débattu au sein du Conseil de Paris, hein, de privatiser un tiers de cet hôpital, qui est situé au pied de Notre-Dame, hein, donc dans un quartier ultra touristique. Et dans ce projet, ils veulent faire du logement étudiant, c'est une bonne chose, hein, mais des services de santé, des commerces et un restaurant gastronomique. Donc là, faut arrêter de casser l'hôpital public. Dans toutes les grandes villes de France, j'avais pas plus tard qu'hier des amis de Nantes en contact qui sont en train de vouloir fusionner deux hôpitaux pour en reconstruire un autre en zone isolable, mais par cette occasion réduire le nombre de lits. C'est-à-dire que la case de l'hôpital public, la crise sanitaire et hospitalière, et ce gouvernement continue de poursuivre.
La Fondation Abbé Pierre recense 300 000 sans domicile fixe en France, un chiffre qui a doublé depuis 2012. Le Secours catholique, de son côté, prévoit 10 millions de personnes pauvres en France cette année. La crise sanitaire aggrave la pauvreté. Ça devrait être la priorité, Daniel Simonet, aujourd'hui, cette lutte contre la pauvreté.
Oui, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Il faut se rendre compte que ces chiffres-là, depuis 1945, on n'avait pas vu une telle explosion de la pauvreté. On a 1 million de pauvres en plus depuis le début de la crise sanitaire. Hein. C'est-à-dire que la France va atteindre les 10 millions de pauvres. Et avec les nombreuses familles qui se retrouvent en impayés de loyer, il y a une vraie crainte qu'en avril prochain, quand il n'y aura plus la trêve hivernale, on se retrouve avec un nombre d'expulsions pas possible. Vous savez, nous, tous les samedis, les insoumis organisent des collectes alimentaires pour concrètement filer un coup de main aux associations qui viennent en aide et qui n'arrivent pas de nous dire, mais on a deux fois plus de personnes qui viennent nous voir pour avoir des colis alimentaires et ce n'est pas les mêmes personnes qu'auparavant. Il y a une situation vraiment de crise sociale qui est non seulement de la hausse du chômage et suppression d'emplois, mais aussi tous ceux qui travaillaient dans l'intérim, ou en auto-entrepreneur, ou dans une économie plus informelle, qui se retrouvent sans rien. Vous ajoutez à cela plein de petites entreprises ou des petits commerces, où on craint également non seulement les fermetures, mais tout le drame qui va avec, et également les suicides. Donc ça devrait être une priorité numéro un, que celle de la redistribution des richesses pour lutter contre la grande pauvreté. Jean-Luc Mélenchon dit souvent il suffirait de mettre à contribution les 2 jours de revenus des ultra-riches pour pouvoir dégager 3 milliards d'euros. Hein, on a bien le lundi de Pentecôte où tout le monde participe. Bon, 2 jours des plus riches pour récolter 3 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on attend? On devrait également rehausser les minima sociaux. On devrait également exonérer de loyer les familles qui ont perdu totalité ou partie de leurs revenus pour lutter contre la grande pauvreté. Une autre redistribution des richesses doit le permettre. Vous savez, les dividendes des actionnaires, elles ont explosé de plus de 60%. Donc il faut les mettre à contribution. Après les grandes guerres, on a toujours mis à contribution et fait des impôts spécifiques sur ceux qui s'étaient enrichis pendant la guerre pour redistribuer des richesses. Il est urgent de le faire aujourd'hui. Ça doit être la priorité numéro un que de lutter contre la grande pauvreté.
Daniel Simonet, le prochain Conseil de Paris commence mardi. Sur quel sujet allez-vous intervenir en particulier ?
Si on me permet vraiment d'intervenir, parce que en fait, c'est un vrai scandale ce prochain Conseil de Paris. En fait, la ville de Paris, l'équipe municipale, au lieu d'être en résistance à Macron et notamment contre cet état d'urgence sanitaire qu'on nous impose au mépris de nos libertés, va en profiter pour piétiner la démocratie, puisqu'ils vont utiliser la loi d'état d'urgence pour limiter le nombre de vœux qui seront défendus au Conseil de Paris, c'est-à-dire le nombre de sujets que chaque élu peut amener. Donc moi, par exemple, je suis la seule élue France Insoumise au Conseil de Paris. D'habitude, je ramène 15 à 20 sujets sur lesquels j'ai dû faire des vœux pour relayer des luttes locales, des interpellations d'associations, syndicalistes. Là, je n'ai droit qu'à un seul vœu, un seul. Donc je vais le faire sur l'autel de Dieu. Sur l'inscription sur les délibérations, normalement, c'est vraiment un droit de chaque élu de s'inscrire sur chaque délibération sur laquelle il juge nécessaire pour qu'il y ait un débat argumenté, qu'on pose des questions avant de voter en conscience. Eh bien là, ils vont regrouper les délibérations par commission, et je vais avoir 2 minutes par commission pour prendre la parole sur un regroupement de 50 à 70 délibérations. Donc c'est complètement antidémocratique. Comment voulez-vous en 2 minutes parler, par exemple, de, je ne sais pas, on brade, la ville a décidé de brader à Total la gestion des bornes électriques, alors que quand il s'agissait d'avoir le soutien de Total pour les JO, ils trouvaient ça totalement anti-écologique, mais là par contre ils sont OK pour brader ce qu'on a pu être géré en régie directe. Et ils vont aussi donner énormément à l'enseignement catholique du fait de l'application de la loi Blanquer sur l'obligation de la scolarisation à 3 ans. Enfin, il y a beaucoup de sujets à ce conseil, je ne sais même pas si je vais avoir le temps d'aborder et d'alerter sur ces sujets-là. Je sais que bon, j'aurai le droit à une question d'actualité, je vais la centrer sur la problématique des habitants de Piton-du-Vernois. D'ailleurs, avant de vous avoir au téléphone, j'ai aidé sur l'accident à Piton-du-Vernois, où on est du côté de la porte de Bagnolet, avec des habitants qui se retrouvent en cette situation de confinement, dans une cité où il y a une prolifération des rats, des souris, des cafards, des punaises de lit. Et en fait, c'est un grand projet de renouvellement urbain, mais qui a pris du retard. Et en attendant, le bailleur abandonne les locataires à une situation totalement indigne. Mais voilà, la démocratie, il ne faut jamais la piétiner, c'est pas acceptable, parce que je pense que c'est justement en période de crise qu'on doit débattre, parce qu'on voit bien que toutes les politiques libérales ont échoué. Donc il y a d'autant plus besoin de faire naître dans le débat l'alternative nécessaire pour répondre aux enjeux socio-écologiques.
Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle il y a une semaine, à condition, à condition d'obtenir les parrainages d'au moins 150 000 citoyens, un chiffre largement dépassé. Pourquoi être candidat dès maintenant, dès cette fin 2020, et ne pas avoir attendu, comme les autres, l'année prochaine, puisque l'élection a lieu en 2022 ?
Alors, d'abord, les autres n'ont pas forcément attendu, hein, parce qu'on sait, par exemple, que les Verts discutent entre eux de savoir s'il faut que leur désignation de candidat vert soit avant ou après les régionales. Le PC a déjà décidé qu'ils auraient un candidat. Le PS aussi, ils ont un problème, c'est qu'ils en auront plusieurs. Bon. Non, je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle intervient au bon moment. Parce que justement, du fait de cette crise sanitaire, économique, sociale, et de la situation aussi très préoccupante sur un point de vue des attentats, hein, et des menaces d'attentats des scènes politiques, il est nécessaire justement, par cette candidature, par le programme qu'elle porte, de montrer qu'il y a une lumière possible au bout du tunnel, qu'il y a une alternative politique. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il a proposé sa candidature à la condition d'avoir 150 000 parrainages citoyens, parce qu'il reprend en fait une proposition de loi qui a été faite par la France Insoumise, qui reprenait d'ailleurs une proposition de Lionel Jospin dans un rapport il y a quelques années, qui devait permettre, l'idée c'était de permettre à un candidat à la présidentielle, vous savez, pour se présenter, il faut regrouper 500 signatures de maires, de grands électeurs. Il proposait une alternative, que ce soit un parrainage populaire de 150 000 citoyens électeurs. Et comme nous défendons cette proposition-là, eh bien nous l'appliquons à nous-mêmes. Et ce qui est très chouette, c'est qu'il y a une belle dynamique, parce qu'en à peine 3 jours, on avait les 150 000, alors qu'à la précédente élection présidentielle, il a fallu plus de 8 mois, je crois, pour avoir 150 000 soutiens. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on continue à faire signer. Vous pouvez signer sur noussommespour.fr. On est à plus de 170 000 signatures aujourd'hui.
Alors, il y a le candidat, Jean-Luc Mélenchon, et est-ce qu'on a le programme? Puisque en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait préparé avec les Insoumis un programme constitué notamment de livrets thématiques sur le logement, les alternatives à l'ubérisation, la production en France, la planification écologique. Est-ce que ce sera le même programme ou eh bien est-ce qu'il va évoluer?
Alors, il va évoluer. Le programme qui s'intitule « L'avenir en commun », il est soumis à débat, c'est-à-dire qu'on propose à toutes celles et ceux qui signent et nous rejoignent, d'ailleurs pour l'instant parmi les signatures, je crois qu'il y a au moins, je ne sais plus si c'est 40 ou 60%, quel est le ratio, mais enfin de nouvelles signatures qui n'étaient pas des gens qui avaient signé sur la plateforme France Insoumise auparavant, et on propose à tout le monde, à ceux qui signent, eh bien voici le programme L'avenir en commun, vous pouvez le faire évoluer, vous pouvez l'enrichir, et d'ailleurs on fait énormément d'auditions à tous les niveaux, hein, dans tous les groupes d'Action France Insoumise, d'auditions d'associations, d'intellectuels, de simples citoyens, de syndicalistes, pour justement voir quelles sont les parties du programme à enrichir, à compléter. Mais les grandes lignes, elles sont là. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une 6e République et donc de convoquer une constituante. On n'a plus que jamais besoin de la redistribution des richesses, d'engager une bifurcation écologique, d'avoir une indépendance de la France pour la paix, donc de sortir de l'OTAN, et de sortir aussi des traités libéraux européens qui nous interdisent en fait de faire toute la politique que nous défendons dans le programme L'avenir en commun. Et par contre, sur toute la mise en œuvre, il y a un véritable enrichissement qui est en train de se faire avec une contribution du monde.
Alors vous parlez des traités européens, est-ce qu'un président de la République française, même si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est élu, aurait les moyens d'améliorer la vie de ses concitoyens, puisque les pouvoirs des multinationales semblent parfois supérieurs à ceux de pays comme la France? Le gouvernement actuel, par exemple, n'arrive pas à agir sur Amazon dans cette crise sanitaire.
Ah non, il n'arrive pas parce qu'il veut pas, hein, parce que la France pourrait très bien décréter de donner les moyens de faire en sorte que tous les bénéfices, le chiffre d'affaires, les bénéfices sont faits par les entreprises sur le territoire français doivent être soumis à la fiscalité nationale. Le bras de fer, il est possible. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, par exemple, vous pouvez mettre en place une politique de protectionnisme solidaire où vous ne pouvez pas être indépendant des marchés financiers dans le cadre des traités actuels. Énormément de nos axes de programme sont incompatibles avec les traités actuels. Par contre, un président de la République, et surtout quand c'est la France, parce que c'est un grand pays et c'est un pays historique dans le binôme avec l'Allemagne dans la construction européenne, et c'est un pays incontournable dans l'économie européenne, la France pourrait dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus respecter ces traités libéraux. Dès lors, il y a deux possibilités. Soit on se met autour de la table avec l'ensemble des autres pays pour redéfinir de nouveaux traités, soit nous sortons de ces traités. Et ce bras de fer, il faut le faire. Et regardez, vous savez, nous disait auparavant la règle des 3%, la règle d'or, vous savez, qui fait que chaque pays n'a pas le droit de dépasser 3% de déficit. Soi-disant, elle était absolument impossible à déroger, gravé dans le marbre. Bon, bah, écoutez, on a bien vu avec la crise que les milliards qui étaient infichus de trouver, ils les ont trouvés. Bon, ils n'en font pas ce que nous souhaiterions qu'ils en fassent, mais ils ne respectent plus la règle d'or, de fait. Donc, la volonté politique est toujours première, et avec nous, elle le sera.
Daniel Simonet, Gilles Poux est le premier maire communiste de Seine-Saint-Denis à se ranger derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On peut imaginer que d'autres élus communistes, d'autres élus écologistes soutiennent sa candidature. Jean-Luc Mélenchon ne serait pas seulement le candidat de la France insoumise ?
Déjà, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le candidat de la seule France insoumise. Hein, quand je vous dis que sur les 170 000 signataires, il y en a une bonne partie qui n'était pas France Insoumise, on voit bien qu'il fédère au-delà. Et oui, je pense qu'il y aura de nombreux élus communistes, si ce n'est même le Parti communiste, qui pourra aussi soutenir cette marche-là. Et je sais qu'il y aura des élus des autres formations, parce que vous prenez même, y compris au Parti Socialiste, beaucoup s'interrogent. Finalement, il y a une centralité occupée par Jean-Luc Mélenchon. Et de la même manière, dans la gauche radicale, il y a beaucoup de débats où beaucoup se disent, bon ben oui, cette fois-ci, c'est possible de l'emporter, c'est possible de gagner. La troisième fois pourrait bien être la bonne. Et donc, il faut s'impliquer dans cette bataille-là.
Et il faudra que Jean-Luc Mélenchon tende la main aux autres responsables des partis de gauche, parce que on a bien le sentiment que s'il y a beaucoup de candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas élu.
Alors, d'abord, ce qui est important, c'est aussi la clarté et la cohérence. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous proposons de débattre avec toutes les formations politiques qui le souhaitent autour du programme, parce que c'est important d'avoir un débat clair. La 6e République, vous êtes pour ou vous êtes contre? La crise de nos institutions, comment pensez-vous qu'on puisse la dépasser? Nous, on propose une méthode, l'Assemblée constituante. Hein. C'est la même chose sur la question européenne qu'on a déjà traitée, ou prenons la question écologique. Voilà, comment vous pensez, vous concevez de la bifurcation écologique? Nous, on pense qu'il faut appliquer une règle verte. On pense qu'il faut relocaliser et donc appliquer un protectionnisme solidaire. Il faut débattre de l'ensemble des choses, mais par le biais du programme. C'est-à-dire, tendre la main, c'est sur la base d'un programme et d'une cohérence politique. Donc là, oui, nous avons fait une proposition de débat à toutes les formations, et y compris celle avec laquelle on est en total désaccord. Je veux dire, la démocratie n'en sera que grandie, que programme contre programme, les débats puissent avoir lieu. Hein.
Merci Daniel Simonet. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris, élue du 20e arrondissement et oratrice nationale de la France Insoumise. Bonsoir.
Merci et n'hésitez pas à soutenir. Nous sommes pour quoi faire.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.